France Inter.
L'infortune nous voue à l'effort et quand vient la quiétude, le ciel ne nous rend pas nos années perdues. À ma grande douleur, finalement tu es reparti. Qui sait ce que réserve le sort ? Passer les vicissitudes, ces poussières n'obscurcissent plus la vue. Dans une vie meilleure, j'espère que nous serons réunis. Rao Pingrou est notre invité ce soir. C'est la première fois qu'il vient en Occident. C'est son premier livre, une véritable révélation qui s'intitule « Notre histoire ». Il sera accompagné tout au long par Marie Holzmann, qui est à la fois sinologue, traductrice, éditrice et présidente de Solidarité Chine. Et nous allons commencer, comme chaque soir, en musique. Et évidemment avec un titre chinois, Angkai. D'abord, c'est un livre, une véritable merveille, à la fois par la beauté du livre. C'est un livre avec un format particulier. Il est rouge, ce n'est pas un hasard. S'il est rouge, comme le petit livre rouge, il s'intitule « Notre histoire, Pingrou et Metang ». Il est signé de vous, Rao Pingrou. Et grâce à vous, et pour la première fois, nous pouvons nous plonger dans le quotidien d'une famille chinoise, et ce, depuis la fin des années 30. Comment est né ce désir de raconter votre histoire, Rao Pingrou ?
Cela remonte en 2008. Cette année-là, mon épouse est décédée. Cette femme a vécu 60 ans. Avec moi. Son absence a quelque chose de très douloureux pour moi. J'étais très triste. Pendant une période, je ne savais plus trop quoi penser. Mais quelques mois après, J'ai pensé que on ne peut pas éviter la mort. Qu'il s'agissait en fait d'une règle de la nature, tout à fait normale. La seule façon, pour
moi,
serait de préserver les histoires de son enfance qu'elle m'avait racontées, les histoires de notre vie. Et ceci grâce à l'écrit et au dessin. Parce que j'ai pensé que la mémoire merveilleuse qui existe dans notre tête est la chose la plus précieuse dans le monde. La chose la plus importante que la fortune, l'argent. L'argent, la fortune, une fois perdu, peut être regagné,
récupéré.
Même si on ne peut plus récupérer cette fortune, ce n'est pas grave. C'est parce que l'argent est quelque chose extérieur de moi-même. En revanche, la mémoire qu'on porte sur nous-mêmes, une fois perdue,
égarée,
ne sera plus récupérable. C'est pour cela que je pense que la mémoire est plus importante que la fortune. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de faire des dessins et des écrits de manière à pouvoir les préserver.
Est-ce que l'idée de faire un livre vous est venue immédiatement, vous qui n'aviez jamais songé à publier Rao Pingru?
L'idée initiale n'était pas du tout d'en faire un livre. C'était simplement pour raconter l'histoire à nos enfants. J'ai 5 enfants. J'ai 5 petits-enfants. Je leur demande ainsi de remémorer l'histoire familiale. Cette histoire qui appartient à la famille. Mais je n'aurais jamais soupçonné qu'un jour, une petite fille qui travaille comme éditrice, ma petite fille a publié quelques-uns de mes dessins sur Internet. Ce qui fait que beaucoup de monde a pris connaissance de notre histoire. Une station de télévision de Pékin est venue m'interviewer. Et on a même fait une émission télévisée. De manière que, à ce que toute la nation en soit au courant. À partir de ce moment-là, beaucoup de médias en Chine sont venus chez moi pour m'interviewer. Et il y a aussi des maisons d'édition qui s'intéressent à mon travail. Et une maison d'édition m'a proposé de publier un livre. J'ai dit d'accord. J'ai accepté. Je ne voulais pas en faire un livre au départ. Je ne suis pas écrivain. Je ne suis pas dessinateur. Je suis juste quelqu'un d'ordinaire. Mais une fois le livre imprimé, je n'aurais jamais pensé que ce livre a touché tant de monde. C'est une sorte d'aventure, un parcours extraordinaire. Je ne suis pas quelqu'un qui sait parler. Je ne suis pas extrêmement sociable. Mais pourquoi tout d'un coup tout le monde vient me voir ? Quelle aventure ! Quelle surprise ! Je ne raconte que de petits riens dans mon livre. De très petites choses. Aucun événement extraordinaire. Aucun exploit. Lors de l'invasion japonaise, j'avais 18 ans. Je suis parti au front. Je n'ai pas hésité un instant. J'étais chef de division. Je n'ai pas de prouesse à raconter. Je suis donc très étonné. Aujourd'hui, je reste étonné
du fait que
autant d'amis, même des amis étrangers, tombent amoureux de ce livre. Pour moi, c'est quelque chose de très surprenant. Je pense que je suis chanceux. Avoir compilé ce livre m'a permis de me débarrasser de ma culpabilité envers ma femme. Mon épouse m'a beaucoup aidée. Je ne sais pas comment bien m'occuper de ma vie. Je ne connais pas la taille de mes chemises, des chaussettes. C'était elle qui me les achetait. Ce que j'aimais, c'est écrire, faire des dessins.
Et
une fois ce livre publié, je dirais que je me suis débarrassée d'un fardeau sur mon cœur. Voilà ce que je ressens aujourd'hui.
Alors, ce que vous ne dites pas, Rao Pingru, c'est que vous êtes devenue une star à plus de 90 ans et que, en Chine, en ce moment, les jeunes s'arrachent votre livre et que les amoureux l'offrent à leurs amoureuses et que les amoureuses l'offrent à leurs amoureux. C'est le nouveau petit livre rouge. Vous comprenez ce succès, Rao Pingru ?
Je n'aurais jamais imaginé un tel succès. Beaucoup de jeunes femmes chinoises achètent souvent ce livre pour l'offrir à leurs copains, pour leur dire que vous devez traiter votre femme de cette façon, comme ce vieux monsieur. Et il y a aussi des couples nouvellement mariés qui achètent ce livre. En guise d'encouragement pour leur vie commune. Ils disent qu'ils sont mes fans. J'en suis étonnée.
Eh ben, je pense que nous sommes tous fans de Rao Pingru. Nous venons de découvrir votre talent. Mais je pense qu'en dehors du plaisir extrême et de l'émerveillement que nous éprouvons en lisant votre livre, Rao Pingru, il y a des choses très importantes sur l'histoire de la Chine qui nous sont révélées grâce à votre mémoire de dessinateur et à votre mémoire de conteur, Marie Holzmann.
Oui, tout à fait. Ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est l'extraordinaire capacité de mémoire de Monsieur Rao, qui se souvient de chaque instant, chaque détail, et qui restitue l'atmosphère de ces années 30, de ces années 40. Et on se promène dans cette atmosphère comme dans un paradis perdu. Je crois aussi que c'est cela qui séduit tellement la jeunesse chinoise, qui, au fond, n'a jamais su ou dont les parents n'ont pas pu raconter le passé, peut-être parce qu'ils n'avaient ni le talent ni la mémoire de M. Rao. Et les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ou 30 ans n'ont peut-être pas des grands-pères aussi capables de recréer cette atmosphère qui apparaît là comme un véritable paradis perdu où chaque plat est minutieusement préparé avec un goût exquis. Le nombre de repas qui sont décrits dans ce livre, je n'ai pas compté, mais il doit bien y en avoir quelques centaines. Et chacun d'entre eux est si délicat, si frais, si parfumé, qu'on partage ce repas avec M. Rao. Je crois que ça, c'est la première chose qui doit beaucoup toucher les jeunes Chinois d'aujourd'hui.
Et puis la Chine des campagnes et la Chine de la paix.
La Chine de la paix, et pourtant ce n'était pas la paix. L'invasion japonaise commence très tôt dans la vie de M. Rao, dès le tout début des années 30. Et pourtant il reste tellement discret sur toutes les tous les drames de la Chine, les moments particulièrement douloureux, humiliants, la violence de la guerre. Il met juste quelques toutes petites touches de noir, mais à peine, au milieu de souvenirs qui sont beaucoup plus tendres, qui sont beaucoup plus affectueux. Sur l'histoire de la Chine, je crois aussi que c'est ça qui séduit les Chinois dans leur grande majorité. Il donne un éclairage incroyablement discret. Ces années, ces 22 années de séparation, en fait, parce qu'il dit qu'il a passé 60 ans avec sa femme, mais pendant 20 ans, ils étaient objectivement séparés. Il a dû partir à cause de ce qu'on appelle des mauvaises origines sociales, parce qu'il a eu le malheur de servir l'armée sous la direction du Kuomintang. Or, lorsque les communistes gagnent, le Kuomintang perd. Et à ce moment-là, il devient un traître. Il devient par nature traître. Et c'est pour ça que la carrière plutôt glorieuse qu'il aurait pu avoir en tant que jeune homme extrêmement éduqué, extrêmement subtil, a été totalement brisée. Puis ensuite, il a été envoyé comme un membre des mauvaises catégories sociales. Mais sur tout ça, il apporte un éclairage là aussi vraiment très délicat, sans s'apesantir sur toute cette douleur, toute cette tragédie. Et je pense que les Chinois qui ont vu beaucoup de romans beaucoup plus durs, beaucoup plus violents sur cette période, sont heureux de pouvoir un peu respirer plus tranquillement en lisant ce livre.
Ce livre, Rao Pingru, il s'ouvre par un éloge de Confucius. Et d'ailleurs, vous serez confucéen tout au long de ce livre. Vous dites que votre mémoire remonte à votre premier rite d'enfance, qui était le rite de l'éveil, un rite qui consiste à honorer Confucius. Pouvez-vous nous en parler ?
Notre famille est traditionnelle. Mon grand-père, sous la dynastie des Qing, faisait partie de l'académie Hanlin. Mon père a travaillé comme avocat. Ma mère était également cultivée. Elle savait composer des poèmes. Elle écrivait beaucoup. Elle m'avait appris à jouer de la flûte. Depuis toute petite, on nous avait appris de respecter nos parents. Quand j'avais 8 ans, on se réunissait pour dîner.
Et
il y avait une domestique à côté. Mais ce n'était pas à elle de servir, c'était à moi de servir. C'était pour m'entraîner de respecter mes parents. Quand on mangeait et que du riz tombait sur la table, il fallait absolument récupérer la graine de riz tombée. Un livre ou des papiers journaux ne devaient pas être posés au sol. Être mis. Il faut respecter les caractères, il faut respecter les lettres, il faut respecter la culture. Voilà l'enseignement confucéen.
Alors, vous écoutiez souvent de la musique, Rao Pingru, avec ou sans votre femme, parce qu'il y a comme eu une vie avant votre femme, et hélas, en ce moment, il y a eu un nouveau cycle sans votre femme. Et vous aimiez beaucoup cette chanson que nous allons écouter, interprétée par les Pink Martini, et qui est un hymne qu'en France nous connaissons par cœur. Écoutez, Rao Pingru.
Bien sûr.
Allez-y, on vous écoute.
Mmh.
平平民月为真，我心早相许。 今后天涯远长相依，爱心云不移。
Ben bravo Raupingrou, vous savez tout faire, vous savez raconter l'histoire de votre propre pays, la Chine, vous savez dessiner, vous savez aimer, vous savez transmettre et vous savez chanter. Alors ce livre est quand même et avant tout un livre d'amour pour votre femme Métang, que vous avez rencontrée à l'âge de 12-13 ans. Elle n'avait pas bon caractère, cette jeune fille. Elle était assez insolente et pourtant elle vous a plu. Quelle est votre définition de l'amour aujourd'hui, Raupingrou ?
Alors, l'amour, la définition de l'amour. Je pense qu'en Chine, il y a de nombreuses interprétations. Quelqu'un a dit que l'amour est une floraison au printemps. Un autre a dit que l'amour est un phare. Bien d'autres encore ont leurs propres interprétations. Mais j'estime que leurs commentaires, leurs interprétations ne sont pas complètes. Il y manque quelque chose. La meilleure façon de comprendre l'amour est le passage que j'ai cité dans ce livre. Un passage qui nous vient de la Bible. C'est la meilleure façon de définir l'amour. Voilà ce passage. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Voilà ce que c'est, l'amour. C'est une définition de la Bible. J'y crois.
Alors, votre livre est une véritable révélation parce qu'il nous permet de rentrer dans les âmes et dans les consciences d'une famille ordinaire chinoise, et ce, pendant 80 ans, Raupingrou. Nous allons écouter André Malraux, qui va parler de la révolution culturelle chinoise. C'est une archive INA du 1er septembre 1967.
Lorsque je suis en Chine, j'ai le sentiment que psychologiquement, il y a des éléments qui ne sont pas les anciens éléments exotiques, la fameuse Chine des mandarins. Il y a des éléments qui ne peuvent être transposés nulle part. La révolution dite culturelle, car elle s'appelle en chinois révolution culturelle prolétarienne, et l'accent est sur prolétarien tout de même, a été extrêmement mal expliquée ici, parce que, en règle générale, ceux qui ont vu n'ont pas été très instruits par ce qu'ils ont vu. Et ceux qui connaissaient la question pour avoir suivi le développement de la Chine, en France, sont extrêmement peu nombreux. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y a cette manie d'employer toujours le mot culturel là-dedans? Il semble que la culture n'ait rien à y voir. C'est pourtant pour une raison excessivement forte. C'est que, sans aucun doute, dans l'esprit de Mao, l'essentiel est, il y a une individualisation en Chine qui est restée beaucoup trop forte. Nous ne pouvons faire la véritable épopée que dans une désindividualisation complète. Et j'appelle révolution culturelle ce qui consiste à détruire ce qui reste d'individus et ce qui, le cas échéant, avec n'importe quel révisionnisme, augmentera les caractères de l'individu.
Alors nous venons d'entendre les opinions et l'analyse d'André Malraux. C'était en septembre 1967, 10 ans après les débuts de ce qu'on a appelé la révolution culturelle chinoise. Et vous, Rao Pingru, vous êtes, comme l'a dit tout à l'heure Marie Holzmann qui nous accompagne tout au long de cette émission, vous êtes pas discret au sens où vous voulez pas en parler, mais vous ne voulez pas vous apitoyer sur ce qui vous est arrivé pendant toutes ces années-là. Voici ce que vous écrivez dans ce livre qui vient d'être traduit en français. Le 28 septembre 1958, j'ai été envoyé en camp de travail dans la nuit. Ce fut le début d'une séparation qui allait durer 22 ans. Que vous est-il arrivé pendant cette révolution, Rao Pingru ?
J'ai été envoyé en camp de rééducation. Cela n'a duré qu'un an. Mais par la suite, je suis resté travailler là-bas. Pendant la révolution culturelle, je n'ai pas été malmené dans cette contrée. Parce que dans cette région, personne n'a rappelé à nouveau cette condamnation de l'époque. Tous les jours, je passais mon temps à étudier, à travailler. Je n'entendais rien de l'extérieur. Je m'intéressais à rien de l'extérieur. Ce qui se passe en dehors de la région ne nous touchait pas. Il s'agit d'une sorte de coffre-fort rouge. Je n'ai jamais été insulté. Je n'ai jamais été tapassé. Je pense que c'est quelque chose qui a été arrangé par Dieu. Sinon, je ne sais pas ce qui se serait passé.
Oui, mais en même temps, vous dites, Rao Pingru, que vous avez souffert de la faim, que ces années-là étaient très, très difficiles, et qu'on a enjoint à votre femme de se séparer de vous. Et qu'elle a répondu, ça c'est quand même extraordinaire, qu'elle a répondu à ses surveillants, elle a répondu « S'il m'avait été infidèle, j'aurais demandé le divorce, mais comme il n'était ni traître à la patrie, ni corrompu, ni voleur, et qu'il n'avait rien fait de mal, pourquoi aurais-je divorcé ?» C'était pas si facile non plus ces années-là pour vous, Rao Pingru.
Oui, bien sûr, c'était difficile. Pour beaucoup de monde, c'était une période difficile à l'époque. Il n'y avait pas moi seule qui avait subi ceci. Il s'agissait en fait des difficultés que beaucoup de monde, beaucoup de mes compatriotes à l'époque avaient subies. C'est ainsi que beaucoup de familles se sont désintégrées. Mais Meitang a réussi à bien tenir.
Alors Marie Holzmann, ça serait passionnant pour nous et pour les auditeurs évidemment de comprendre quels sont les enjeux de la publication de ce livre de Rao Pingru et de nous décrire ce qu'il nous apporte au niveau de la compréhension de cette période qui a été ô combien controversée, y compris en France, hein, de la révolution culturelle. Parce que Rao Pingru, vous l'avez dit en début d'émission, est très discret sur ses souffrances, mais elles ont été manifestement très dures. Il n'a pas très envie d'en parler encore aujourd'hui. Qu'est-ce que cela peut dévoiler de nouveau sur ce passé proche de la Chine, selon vous, vous qui êtes sinologue et très engagé pour les droits de l'homme?
À vrai dire, je dirais que ce n'est pas sur l'histoire que nous apprendrons quelque chose de ce livre. Parce que, effectivement, Monsieur Rao est à la fois tellement discret et il a ce caractère tellement solaire de toujours vouloir voir ce qui est positif. Ce que ce livre nous apprend, c'est un peu une entrée dans la psyché chinoise, c'est-à-dire cette capacité de résilience. Parce qu'on pourrait se poser la question, comment est-ce que toute la population chinoise, parce que personne n'a été épargné. Hein, c'est presque 1 milliard de gens, enfin à l'époque ils étaient 800 millions, qui ont vécu des souffrances intenses, qui se sont lancés dans des combats les uns contre les autres, dans une unité de travail comme on disait, les uns dénonçaient, les autres battaient, les autres étaient enfermés, certains sont morts. Et comment est-ce que de cette société fracassée est sortie une société qui s'est presque instantanément remise au travail, s'est réattelée à la tâche et à partir de 1980 a reconstruit le pays? Et je crois que la psychologie de Monsieur Rao, justement, cette formidable résilience face aux adversités, permet de comprendre un peu ce miracle d'une Chine qui a survécu et dont une partie des traditions ont réussi à renaître malgré la destruction systématique, vraiment systématique, de tout ce qui était beau, de tout ce qui était traditionnel, des temples, des statues, des peintures, enfin, tout a été détruit par les... Tout, j'exagère, bien sûr, certaines choses ont été préservées, mais énormément de choses ont été détruites par les gardes rouges. Et pourtant, on voit que dans la mémoire, dans le cœur des vieux Chinois, maintenant vieux Chinois, toute cette tradition, cette beauté d'antan, cet art de vivre, ont survécu.
Merci Marie Holzmann, vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue avec Marie Holzmann et Rao Pingru. Nous écoutons votre choix musical, Marie Holzmann. Vous avez choisi Qiujian, un musicien de rock très populaire en ce moment même auprès de la jeunesse chinoise. Rao Pingru, votre femme Metang est morte le 23 mars 2008. Et vous, eh bien, après avoir hésité d'ailleurs, hein, on le comprend à mi-mot à l'intérieur de votre livre, vous avez décidé de continuer à vivre. Et si nous avons bien compris votre livre, vous vivez avec un de vos enfants. Comment est la vie aujourd'hui et quel regard portez-vous sur votre pays qui a tellement changé depuis que vous aviez 7 ans et que vous avez des souvenirs si précis?
Alors ma vie d'aujourd'hui, je pense que j'en suis très satisfait. J'ai une retraite. Mes enfants sont très gentils avec moi. Ils exercent la piété filiale. Et mon cœur est joyeux. Demain matin, je me lèverai à 6 heures. Tous les jours, je me lève à 6 heures pour faire des exercices physiques. Je fais du tai chi tous les matins.
Je
joue au piano.
J'ai
appris en autodidacte le piano. J'ai commencé à apprendre le piano à 90 ans. C'est avec une méthode que j'ai appris tout seul à jouer du piano. Parce que sinon, les frais qu'on paierait à un éventuel prof seraient trop élevés. Et j'ai aussi acheté des aliments pour
chats,
pour en mettre dans ma cour, en disperser. Il y a des chats sauvages qui errent dans le quartier, comme ça, ils ont de quoi se nourrir. J'ai aussi acheté du millet. Et en disperse dans la cour aussi. C'est pour les moineaux. J'aime la vie.
C'est
ainsi que je permets aux animaux de mon quartier de vivre aussi. Moi, j'ai de quoi manger. Pourquoi pas les animaux? J'ai un chat. Il a 13 ans. Ça fait 13 ans qu'il vit avec moi. Bien sûr, il a droit à une meilleure alimentation. Je rajoute aussi un peu d'ingrédients faits à base de viande fabriquée à Taïwan pour le nourrir. Pour le mélanger avec du riz. J'ai en train d'écrire mon deuxième livre. Pour commémorer mon père et ma mère. Mon grand frère, mon petit frère et ma grande sœur. Mais aussi mes grands-parents maternels. Ce livre pourra être publié cette année. La maison d'édition a déjà signé un contrat avec moi.
Donc,
j'ai beaucoup de travail tous les jours. J'ai de quoi m'occuper. Le soir venu, après le dîner, au lit, je prends mon livre de chevet. Peut-être avant, je ne lisais pas assez. Je n'ai pas fait l'université. Je n'ai même pas fini le lycée. Il est temps que je rattrape. Et tous les soirs, je lis de l'anglais aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un journaliste du Figaro voulait venir chez moi pour m'interviewer. C'était le mois dernier. J'ai demandé au rédacteur en chef de la maison d'édition. Et je lui ai demandé comment on dit en français bonjour. Il m'a dit au revoir. Alors j'ai noté comment on prononce bonjour. Et le lendemain, le journaliste est arrivé. Avec son assistant. Son interprète, ainsi que le rédacteur en chef. Je suis sorti pour l'accueillir. Et j'ai dit au revoir. Il n'y avait aucune expression sur son visage. Il
ne
m'a pas complimenté. Et pourtant, je lui ai dit bonjour en français. J'étais étonnée. Et il est rentré dans mon salon. Pour m'interviewer, et l'interprète a traduit. Là, il y a un espace de temps, une pause. J'ai demandé à l'interprète, en français, comment on dit bonjour ? Que signifie au revoir ? Il m'a dit au revoir, c'est bien sûr au revoir. Oh, quelle erreur j'ai commise. Et comment on dit bonjour alors ? Je demande à l'interprète. Il m'a dit... Je ne sais pas comment bien le prononcer. Est-ce que c'est ça ? C'est ça bonjour ? C'est comme ça qu'on le dit ? Peut-être c'est pas correct, c'est toujours pas correct.
En tout cas, hélas, l'émission va se terminer. Donc, Rao Pingrou, vous allez nous dire au revoir en français ?
Au revoir.
Au revoir. Et merci.
Au revoir.
Et merci. Et merci à Marie Holzmann qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à Rao Pingrou. Merci à cette merveilleuse traductrice Virginie Chen. Merci à Anne Sastourné qui a permis avec Adrien Bosque la naissance de ce livre qui est encore une fois une véritable révélation, qui est traduit du chinois par Françoise Dubois et qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Nous sommes tous et toutes des Rao Pingrou.
Si.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait. Ne travaillait jamais. Pareo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux. Le goût du sel sur la peau. Elle était belle. J'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi ? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.
Vous avez écouté Albin de la Simone, Angaï, Pink Martini, Q-Jan, merci à Thierry Dupin. Cette émission a été réalisée par Véronique Barnet, préparée par Élodie Royenne, Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir Guillaume Roux. Merci à toutes et à tous. Et après le journal, vous retrouverez comme chaque soir Mishka pour A Very Good Trip.